This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffre, ici on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire ou quand le jazz retrouve quelques repères. Une émission de Gérard Viol, c'est Alain Vaquier, réalisée par Bruno Bertrand. Cette année-là, 1958, c'est l'année de la révolution à Cuba. Après avoir débarqué sur l'île dans des conditions épouvantables liées à la mauvaise météo et à l'accueil des forces régulières, il ne restera que 12 des 82 guérilleros du mouvement du 26 juillet à parvenir au cœur de la Sierra Maestra, à Cinco Palmes. Les frères Castro et Che Guevara en sont. Et tout au long de l'année 56 et 57, la guérilla va se structurer et recruter. Le 27 février 1958, les opérations s'intensifient avec trois colonnes de guérilleros. Le 9 avril, c'est la grève générale étouffée par le dictateur Batista. Le 17 mars, les États-Unis mettent l'embargo sur toutes les armes en direction de Cuba, ce qui rétablit un certain équilibre entre les guérilleros et l'armée régulière. De septembre à octobre, les forces rebelles se rapprochent des principales villes. Le 3 novembre, des élections présidentielles anticipées ont lieu. C'est un échec à cause d'une abstention massive de la population. La fin de l'année sera décisive et le 14 décembre, les États-Unis retirent leur soutien à Batista. La chute de la dictature paraît inévitable. Les soldats de l'armée régulière désertent pour rejoindre la guérilla. Après une dernière tentative auprès des Américains pour installer une junte militaire après la fuite de Batista, les États-Unis reconnaissent le nouveau gouvernement révolutionnaire cubain. Le 1er janvier 1959, Fidel Castro et Che Guevara prennent le contrôle de Cuba en entrant dans Santiago de Cuba. Les années qui suivront verront la controverse s'établir au sujet de Cuba, de son nouveau régime, des droits de l'homme. La figure d'un homme va rester comme une référence, une icône, celle de Che Guevara.
Ernesto Che Guevara, l'homme au béret étoilé à la beauté d'archange, est entré dans la légende comme l'image emblématique du révolutionnaire pur et généreux. Encore présent partout sur les murs de la Havane, comme il était présent sur les barricades de mai 68, son portrait, saisi dans l'éternité de la jeunesse, a circulé par millions à travers la planète. Il continue d'incarner la figure de la révolte. Mort à 39 ans, l'inguérissable romantique est le héros d'une tragédie qui a changé sa vie en un fulgurant destin. Tout commence en Argentine, quand au début des années 50, comme Jack Kerouac à la même époque, Ernesto Guevara, jeune étudiant en médecine anticonformiste, part sur les routes à la découverte de son continent. Il a lu et relu Don Quichotte, et en guise de Rocinante, il enfourche une vieille moto avec un ami médecin. Il griffonne sur un de ses carnets de bord, « Cette errance sans but m'a transformé plus que je ne l'imaginais ». Toute sa vie, il écrira journaux de voyage, récits et poèmes. Comme Rimbaud, il se découvre homme aux semelles de vent. Il remonte la cordillère des Andes, longe les lacs de Patagonie, escalade les pentes de la mythique Valparaiso, découvre le désert chilien au gisement de cuivre à ciel ouvert démesuré. Il est frappé par cette Amérique latine qui lui apparaît à la fois multiple et unique. Cet Argentin s'affirme désormais comme un latino-américain. Thank you. Sur les rives du Titicaca et au Pérou, sur les hauteurs du Machu Picchu, il est en proie à la même exaltation que le poète Pablo Neruda devant la puissance de la civilisation inca. Guevara prend conscience qu'il appartient à un continent gigantesque, ce qu'il appelle sa véritable grande patrie, son Amérique majuscule. Septembre 1952, retour à Buenos Aires, dans l'Argentine péroniste. Ernesto a 24 ans, il termine au galop ses études de médecine. 15 examens réussis en 5 mois, et le voilà docteur. Mais nomade impatient et insatiable, il s'empresse de repartir, ignorant qu'il quitte son pays natal à tout jamais. L'Amérique latine est en pleine effervescence. En Bolivie, Guevara assiste à une révolution qui nationalise les mines d'étain et engage une réforme agraire. Mais les États-Unis surveillent de près les tressaillements du continent. Ils défendent leur chasse gardée où prospère l'United Fruit, la puissante multinationale surnommée la pieuvre verte, présente partout en Amérique latine. Le tout jeune docteur découvre la misère, la dénutrition, la violence sociale. Il écrit « J'ai juré de ne pas prendre de repos tant que ne seront pas annihilés ces poulpes capitalistes. » C'est ici à Mexico que la vie d'Ernesto va basculer. Des immigrés cubains lui présentent Raúl Castro, le jeune frère de ce fameux Fidel dont on commence à entendre parler et qu'une amnistie vient de libérer. Fidel Castro, jeune avocat de 27 ans, s'est engagé très tôt en politique pour débarrasser Cuba du dictateur Batista. La Havane offre à quelques encablures de la Floride casinos, boîtes de nuit et prostituées. Tout s'achète dans la Havane de Batista, où le dollar est roi. La corruption règne et le régime devient brutal. Puisque Batista interdit des élections libres, Castro se tourne vers l'action révolutionnaire. C'est un échec durement réprimé dans le sang, mais le mouvement M26 est né. Castro est arrêté et emprisonné. Devant le tribunal, il lance « L'histoire m'acquittera ». Quand 2 ans plus tard, en 1955, amnistié, il débarque à son tour à Mexico, Raoul lui présente son ami argentin. C'est la rencontre décisive dans la vie de Guevara. Entre Ernesto et Fidel, le coup de foudre est réciproque. Il va durer 10 ans. Pendant 10 années, il y aura Fidel et le Che et Fidel. Jusqu'en 1965, ce duo de Barbudos, fondé sur l'admiration mutuelle, va écrire une page exceptionnelle de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle. Des conceptions différentes de la révolution et les choses trappes du pouvoir donneront à leur histoire des dimensions shakespeariennes. Une histoire qui a commencé une nuit de juillet 1955 à Mexico. Après mes longues marches à travers toute l'Amérique latine, il n'en fallait pas beaucoup pour me persuader de rejoindre n'importe quelle révolution contre un tyran. Fidel me fit l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire. Il faisait face à l'impossible et le résolvait. Guevara est déjà un marxiste convaincu. Pour lui, l'ennemi désigné est clair. C'est l'impérialisme des États-Unis. Castro, lui, veut surtout débarrasser son pays d'un dictateur. L'un et l'autre s'accordent sur la nécessité de la lutte armée. Le projet de Castro, c'est rien moins que d'organiser un débarquement clandestin à Cuba avec un petit groupe d'hommes bien entraînés et de renverser Batista. Ce projet, discuté dans la nuit par ces 2 hommes de moins de 30 ans, paraît dément. Et il l'était. La tempête fait rage. Le vieux rafio affrété par Castro, le grand mât, est 4 fois trop chargé. le mal de mer ravage la troupe. À bord, 82 hommes. Parmi eux, engagé comme médecin, un drôle d'Argentin qui vogue vers le rendez-vous qu'il a avec lui-même et avec l'histoire. Il écrit à ses parents « Mon avenir est lié à la révolution cubaine. Ou bien je triomphe avec elle, ou bien je meurs là-bas. » Plutôt qu'un débarquement, c'est un naufrage. Le lieu est épouvantable. À peine extirpés des marais, les hommes de Castro sont cueillis par l'armée de Batista. Seule une vingtaine réussit au prix d'efforts inouïs à se regrouper dans la Sierra Maestra, le massif montagneux qui domine l'est de l'île. Engagé comme médecin, Guevara choisit de prendre une caisse de munitions plutôt que le sac de médicaments. Désormais, il sera d'abord un guérillero. Ce médecin sera de fait un combattant exemplaire. Il se révèle endurant, excellent stratège et toujours audacieux. Guevara découvre qu'il aime les armes et qu'ici, dans la guérilla, il s'accomplit pleinement. Dans la fureur de la bataille, il vit la phase peut-être la plus heureuse de son existence. La Sierra, le combat, la rude vie de guerriero sont devenus les éléments familiers d'un univers où l'Argentin se sent à l'aise, libre de se promener enfin débraillé et de ne pas se laver parce qu'il n'a jamais aimé cela. Dans la Sierra, dit-il, c'est à l'odeur que chacun reconnaît son hamac. Et puis vient un moment inoubliable pour Ernesto. Au moment où je m'apprêtais à inscrire mon grade en face de mon nom, Fidel lança simplement « Signe commandant ». Je n'étais pas peu fier ce jour-là. Il vient d'avoir 29 ans. Il est le premier à recevoir ce grade le plus élevé de l'armée rebelle. Je reçus une petite étoile, symbole de ma promotion. Il fait donner des cours d'alphabétisation, met en place Radio Rebelle, et imprime tracts et journaux qui feront connaître le sens de leur lutte.
Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento 26 de julio.
Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba.
Est-ce déjà préfiguration de la société égalitaire dont il rêve? Pour Guevara, le marxiste, la finalité socialiste est une évidence. Castro, le pragmatique, n'en est pas encore là. J'ai toujours considéré Fidel comme un authentique leader de la bourgeoisie de gauche, écrit alors Guevara. Et déjà, il met en garde Castro. Nous devrons affronter l'oncle Sam. Il a découvert que le meilleur médicament pour son asthme, c'est l'odeur de la poudre. À présent, il a pris goût aux cigares cubains, et qui plus est, il avale la fumée. Si on lui dit que c'est pure folie pour un asthmatique, il rétorque que c'est excellent pour tromper la faim et se protéger des moustiques. L'étouffement de l'asthme lui fait côtoyer la mort comme une complice. Il s'accoutume à une survie permanente. Impitoyable avec lui-même, il devient dur avec les autres. On le respecte, mais on le craint. La guérilla dure depuis 2 ans et Batista, avec une armée forte de 10 000 hommes, ne réussit pas à encercler les 300 guerrieros dans la Sierra Maestra. Fin 1958, Castro passe à la contre-offensive. Il charge ses deux meilleurs lieutenants, Guevara et Camilo Cienfuegos, de traverser l'île d'est en ouest et de marcher sur la Havane. Avec à peine une centaine d'hommes mal équipés, Guevara réussit la mission impossible de parcourir 700 km en quelques semaines. En décembre, il parvient aux portes de Santa Clara, capitale de la province du centre. On découvre la vaillance et l'audace de ce commandant déjà mythique qu'on appelle Che Guevara. Sa légende enfle et se répand dans tout le pays.
Voilà, une vie exemplaire, une trajectoire terrible. Le compagnonnage avec Fidel Castro durera jusqu'en 65, date à laquelle il partira de Cuba. Alors nous allons entendre une interview de Che Guevara, la seule réalisée en français en 1964. En avril 64 exactement, l'équipe de l'émission Point de la radio-télévision suisse et le journaliste Jean Dumur rencontre Che Guevara à Genève. Il est alors ministre de l'Industrie et il quittera donc ce poste en 67 pour partir en Amérique latine.
D'après vous, est-ce qu'il y a quelque chose de changé dans l'attitude des États-Unis à l'endroit de Cuba ?
Peut-être. Je vous dis que c'est difficile à vous répondre directement. En tout cas, nous ne fixons pas notre position en écoutant, en regardant ce que les États-Unis font ou ce que les États-Unis vont. Nous faisons notre politique internationale. Et naturellement, nous regardons avec attention ce qu'il fait parce que c'est notre ennemi, il est près de nous, il est très fort. Aujourd'hui, dans ces derniers jours, il y a quelques voix américaines, on les connaît, le sénateur Fulbright, par exemple, qui a parlé un langage absolument différent. Mais immédiatement, M. Rusk, M. Thomas Mann ont parlé dans le langage habituel. Et nous ne pouvons pas savoir si vraiment l'attitude de Fulbright, par exemple, correspond à un changement de la position des États-Unis ou seulement est une voie isolée.
Quels sont les rapports actuellement de Cuba avec le reste de l'Amérique latine ?
Bon, elles sont faibles. Nous avons des relations diplomatiques avec 5 pays. Et nous avons des relations commerciales avec 2 ou 3 seulement. Ils ne sont pas importants. Et le blocus américain s'est imposé aussi vers le pays de l'Amérique latine. Et je pense avec une effectivité meilleure que dans d'autres régions du monde. Et les pays américains nous ont condamnés à Punta del Este, à l'Uruguay, dans une conférence l'année 62. Nous sommes expulsés de l'Organisation des États américains. Et il y avait beaucoup de pays qui ont coupé son relation diplomatique et commerciale avec nous. Ça, c'est la situation jusqu'à ce moment.
Pensez-vous qu'il y a, à l'heure actuelle, en Amérique latine, des pays mûrs, prêts pour une révolution du type castriste, du type cubain ?
Il y a quelqu'un où déjà il y a la lutte. Ici, on ne parle pas de ça, mais la lutte existe à Venezuela, existe au Guatemala. Et peut-être il y a d'autres pays où le peuple lutte avec les armes. Ça a passé avec nous. Nous avons lutté 2 années et il y a de longues périodes de temps où personne n'a parlé de nous.
Vous avez parlé du Venezuela et du Guatemala, mais est-ce que Cuba aide les révolutionnaires de ces pays ?
Moralement seulement, ils considèrent que son lutte est juste, mais jusqu'à ce point.
Voilà donc le dernier interview en français, et le seul d'ailleurs, à ma connaissance, qui est donné Che Guevara à une équipe européenne. Il y aborde les deux obsessions de sa vie, c'est-à-dire à la fois la question de la révolution, mais aussi son internationalisation, ce qui n'était pas, à proprement parler, du goût de Fidel Castro. Et c'est ainsi que, de ministre de l'Industrie qu'il était, il va donc quitter son poste en 67 et partir prolonger son action, son rêve peut-être, d'une révolution à l'échelle de l'Amérique latine. Malheureusement, c'est en Bolivie qu'il combattra et il sera arrêté le 8 octobre 1967 et abattu. Cette année-là, un musicien d'origine cubaine fait danser l'Amérique, c'est Pérez Prado. Musicien d'origine cubaine, Pérez Prado, né en 1916 à Cuba, donc avait émigré aux États-Unis au moment de la dictature. Et il va s'inspirer du jazz, du bebop et des orchestrations de Stan Kenton. Et il est l'inventeur du mambo, sorte de Latin jazz de l'époque. Il est un autre émigré qui porte le nom de Xavier Cugat, catalan d'origine, né en 1900 et qui donc a émigré à Cuba à l'âge de 4 ans, puis aux USA et en Europe à l'âge de 18 ans. Violoniste, il est mort à Barcelone en 1990 et il joue lui aussi dans le même style de musique. En 1958, c'est Cuban Mambo. Et voilà, ainsi s'achève ce troisième épisode de l'année 1958. Demain, ce sera une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte J.W.R. en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.